Cours de théologie naturelle par le Père Philippe, Saint-Joseph, le 19 décembre 84.
Nous allons continuer cette étude du jugement de sagesse. Alors vous voyez bien comment nous procédons. À partir des manières d'exister de Dieu, nous essayons de regarder ce qu'est l'homme. Nous essayons de comprendre le statut particulier au point de vue existentiel, comme on dirait, de l'homme. Alors, à partir de la simplicité, nous avons vu qu'il existe dans l'homme cette division fondamentale entre essence et existence. Toute réalité en dehors de Dieu a son essai participé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de le comprendre. Il a laissé participer, c'est-à-dire laissé reçu. Et reçu dans quoi? En lui-même. C'est forcé. Dans la simplicité de Dieu, toute créature est complexe. Il y a une fêlure métaphysique, cette fameuse fêlure métaphysique de Kierkegaard. Eh bien, cette fêlure métaphysique, nous sommes des êtres fêlés, cette fêlure métaphysique, c'est la distinction entre l'essence et l'existence. Il ne faut pas que ça se voit trop, mais c'est quand même ça. Métaphysiquement, il y a une fêlure très fondamentale entre l'essence et l'existence. Il y a en nous une potentialité radicale qui est la limite même dans l'être, qui est justement ce point de vue de l'essence. Alors là, l'essence qui reçoit l'existence, qui en recevant l'existence la limite. Donc, vous voyez, là, nous situons bien cette fameuse distinction, ce qu'on a appelé la thèse thomiste. En réalité, ce n'est pas du tout une thèse. Et là, on voit qu'on a complètement faussé la perspective. C'est une conclusion de sagesse. C'est une vision de sagesse. Alors, une conclusion n'est pas une thèse au sens propre, si vous voulez. C'est essayer de comprendre qu'à partir de la simplicité de Dieu, nous voyons qu'il y a en nous, au plus intime de nous-mêmes, cette distinction entre l'essence et l'existence. Deuxièmement, c'est ce que nous avions vu la fois dernière, à partir de la perfection de Dieu, cette perfection qui est dans la simplicité, cette perfection qui est une perfection qui fait que on ne peut rien ajouter à Dieu, il ne manque rien à Dieu. Nous pouvons affirmer qu'en nous, que dans la personne humaine, que dans l'être humain, il y a une opposition, une antinomie entre le point de vue de la simplicité et le point de vue de la perfection. Jamais notre perfection ne rejoindra notre simplicité. Notre simplicité repose fondamentalement sur notre substance. Nous sommes simples par notre substance. Du moins, une certaine simplicité. Pas une simplicité absolue, puisqu'il y a une potentialité. Et puis, il y a la perfection en nous. Et la perfection présuppose des qualités. On est parfait grâce à ces qualités. On est plus ou moins parfait. Il y a du plus ou moins dans l'ordre de la perfection. Et ça dépend de nos qualités. Ça dépend de nos qualités, ça dépend de nos puissances. On est plus ou moins intelligent. On est plus ou moins capable d'aimer. On a des dispositions plus ou moins parfaites. On est plus ou moins poète. On est plus ou moins musicien. On a des dispositions naturelles d'ordre de la perfection. Et là, il y a du plus et du moins. Et cette perfection, est quelque chose qui implique nécessairement une certaine complexité. On n'est pas simple dans ses perfections. Alors c'est, je crois, très important pour comprendre que de fait, il y aura toujours en nous une spiritualité de simplicité et une spiritualité de perfection. Le boulot et le centre, il ne faut jamais l'oublier. Alors il y a des familles de boulot et il y a des familles de cèdres qui font des gens qui sont instinctivement orientés vers le point de vue de la perfection et d'autres qui sont instinctivement tendus vers la simplicité et qui font que nécessairement là le point de vue du jugement sera très différent au point de vue de l'estimation. Mais il serait très intéressant de rattacher ça à la question des valeurs. Les valeurs regardent la perfection. Les valeurs ne regardent pas du tout la simplicité. C'est là on voit comment le point de vue des valeurs, c'est bien. Vous voyez, la valeur est entre la perfection et la bonté, comme on va le voir. C'est un entre-deux. C'est pas la bonté, la valeur. C'est plus du côté de la perfection. Je crois que c'est plus du côté de la perfection. Quand vous regardez les valeurs, c'est beaucoup plus. Les valeurs sont plus du côté de nos capacités, de nos capacités d'adaptation, de nos capacités de réalisation. C'est ça les valeurs. Donc c'est plus du côté de la perfection. Alors nous allons entrer maintenant dans le troisième point qui du reste touche celui-là, mais qui est quand même différent. Si l'être premier est souverainement bon dans sa substance, la créature n'est parfaitement bonne que par ses qualités, ses opérations qui l'unissent à sa fin propre. Alors là, nous retrouvons une nouvelle distinction par rapport à la perfection. Autre chose est la perfection, autre chose est la bonté. En Dieu, perfection, bonté et simplicité ne font qu'un. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important pour toute la question de l'éthique. Vous voyez, la perfection serait plus du côté des valeurs intellectuelles et artistiques. Et la bonté, c'est plus du côté éthique. Alors, en Dieu, simplicité, perfection, bonté, sont un. Je distingue, mais Dieu, l'être premier est absolument simple, il est très parfait et il est souverainement bon. Et ceci dans une unité parfaite, dans sa propre substance. Dans sa manière d'être est simple, sa manière d'être est parfaite, sa manière d'être est bonne. Vous ne pouvez pas dire que votre manière d'être est bonne. Vous ne pouvez pas dire que votre manière d'être est parfaite. Vous ne pouvez pas dire que votre manière d'être est simple. Votre manière d'être et votre substance est complexe. Elle implique une distinction entre essence et existence. Votre manière d'être n'est pas parfaite dans sa substance. Il faut les qualités. Et les qualités viennent s'ajouter à votre substance. Donc, vous êtes parfait dans une complexité. Et plus l'être est parfait, plus il est complexe. En toute créature, c'est nécessaire. La complexité fait partie de la perfection. C'est toujours très difficile. Ça, c'est au fond, il s'agit d'une complexité et maintenir une certaine unité. L'unité est plutôt du côté de la simplicité. Alors maintenant, nous allons voir du côté de la bonté. La bonté de Dieu est substantielle. Dieu est bon dans son être. Dieu est bon dans sa substance, dans sa simplicité. Ce qui explique que lorsque Dieu se donne, il se donne totalement. Parce qu'il est bon dans sa substance. Alors, la bonté, c'est celui qui est capable de se communiquer et qui est capable d'attirer. Un être bon est celui qui attire et qui finalise. À la différence du parfait, c'est celui qui est capable de se communiquer. Pas la même chose, vous voyez. Il y a quand même une différence entre perfection et bonté. La perfection, il ne manque rien. C'est une espèce d'intégrité. Dieu, perfection et bonté ne font qu'un. Donc, pour nous, c'est l'intégrité. Il ne manque rien. Je suis parfait. On ne peut jamais dire ça de façon absolue. Hein. Je suis un parfait religieux. Vous voyez, ça dit des choses merveilleuses. Hein. Ça veut dire que du côté des vertus, on ne peut rien ajouter. On ne peut rien ajouter. Il y a une espèce de totalité absolue. Parfait, intègre, une loi ambulante. Vous êtes absolument parfait, il ne vous manque rien. Tandis que la bonté, c'est celui qui est capable d'attirer. C'est celui qui est capable d'attirer, il attire, il suscite un amour. La perfection ne suscite pas toujours un amour. C'est, si on est parfait, On peut d'une certaine manière être exemplaire. L'exemplarité est-elle du côté de la bonté ou du côté de la perfection? Ça, c'est une question très intéressante. Parce que la valeur est du côté de l'exemplarité. Et c'est pour ça que je crois que la valeur est plutôt du côté de l'intégrité. Comme nos valeurs. C'est du côté de l'intégrité, c'est pas du côté de la bonté. La bonté est autre chose. On ne dira jamais qu'un ami, c'est une valeur. L'ami me valorise d'une façon extraordinaire. Ça se met sur sa carte de visite. Je suis lié à tel ami. Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors là, on voit l'humilité de Dieu. De se référer à Abraham, Isaac et Jacob. Tandis que nous, lorsque nous mettons nos relations, alors ça nous valorise. Hein. Alors c'est du côté plutôt de l'intégrité, c'est du côté des qualités, plus que du côté de la bonté. Alors essayons de comprendre. Quelle est notre bonté? Quelle est la bonté d'une créature? Comme créature. La créature comme créature ne peut pas finaliser au sens absolu, puisqu'elle est limitée dans son être. Dans ses qualités. Elle ne peut pas finaliser de façon absolue. Il n'y a que Dieu qui peut finaliser. En définitive, dans un jugement de sagesse, voyez bien, on va revenir, parce que, alors vous allez me dire, en disant ça, vous supprimez toute éthique. Et vous tombez dans un platonisme absolu. La seule fin de la créature, c'est la contemplation. Donc c'est ce que dit Platon, et il a raison. C'est très intéressant, dans un jugement de sagesse, on est très proche de Platon. Ce qui montre bien que Platon fait un blocage, une confusion entre un ordre de sagesse et un ordre d'invention, de recherche. Dans un ordre de sagesse, c'est très vrai, dans un ordre de sagesse, la seule fin, c'est Dieu. C'est la seule finalité. La seule finalité, c'est Dieu. La seule bonté absolue, c'est Dieu. C'est Dieu qui finalise d'une façon parfaite. Il est le bien absolu. La créature comme telle ne peut pas être bonne dans sa substance, puisqu'elle est dépendante d'un autre. Puisque elle ne peut pas être ce qui achève, ce qui termine. Donc elle ne peut pas être bonne dans sa substance. Elle ne peut être bonne que par les accidents. Elle ne peut être bonne que par ses opérations. Elle ne peut pas être bonne par elle-même. C'est pour ça que la bonté de la créature va impliquer le point de vue de l'existence, le point de vue des qualités, le point de vue de ses opérations. Le propre de la raison de bonté dans la créature implique ces trois degrés. C'est ce que souligne saint Thomas quand il dit que la raison de bonté de la créature, donc de l'homme, implique toujours l'essai, les qualités et les opérations. Ça implique les trois. Ce qui montre bien que la bonté en nous est quelque chose qu'on acquiert. On devient bon. Dans le sens très très fort. On n'est pas bon dans sa propre substance. Pourquoi ? Parce que dans sa propre substance, on peut justement exister dans sa propre substance, on existe dans sa substance, on a son autonomie, mais dans sa propre substance, on n'a pas encore la perfection présuppose des qualités qui s'ajoutent à sa substance, et on ne peut pas être bon substantiellement parce que justement, on n'est pas à soi-même sa propre finalité. Notre finalité est autre que nous. Si notre finalité est autre que nous, notre finalité est justement un dépassement par rapport à nous-mêmes. Or, si notre finalité est un dépassement par rapport à nous-mêmes, si notre finalité implique que nous recherchions quelque chose qui est autre que notre propre substance, nous ne pouvons pas dire que nous sommes bons substantiellement. Nous ne sommes pas bons dans notre être. Alors vous voyez là le jugement que dit toujours saint Thomas qui, quand il veut essayer de comprendre la différence entre le point de vue de la ratio entis et de la ratio boni, saint Thomas fait un raisonnement extrêmement intéressant, c'est dans la question 5 de la prima pars. Question sur le bien. Où saint Thomas nous dit que la ratio entis, la raison d'être, regarde en premier lieu, point de vue, la substance, qui relève de la cause formelle, tandis que la ratio boni, la raison du bien, regarde en premier lieu la cause finale. Qui est d'ultime. Et c'est pour ça qu'un être peut être substantiel, peut être d'une manière absolue, exister d'une manière absolue quant à sa substance, mais il n'est pas bon d'une façon absolue par sa substance. Il n'est bon d'une manière absolue que grâce à ses opérations. Que dans la mesure où il est capable de se dépasser et donc d'atteindre la cause finale. C'est par la cause finale qu'on est bon d'une manière absolue. On est bon que quand on rejoint sa fin. Dans la mesure où on rejoint sa fin, on est bon. Donc, dans l'au-delà de la substance. La substance nous donne l'autonomie. Il y a un dépassement de sa propre autonomie dans le fait qu'on atteint sa fin. Et si on atteint sa fin, on a la possibilité justement d'être bon. Alors, on ne l'est pas substantiellement, on l'est accidentellement, au point de vue proprement de l'être. Mais au point de vue du bon, au point de vue de la bonté, c'est dans la mesure où on atteint sa fin qu'on est bon. C'est dans la mesure où on atteint sa fin qu'on est bon. Alors, voyez, ceci nous permet de comprendre quel est exactement le caractère de la bonté d'une personne humaine. Une personne humaine n'est pas substantiellement bonne. Chacun d'entre nous. Je ne suis pas bon quant à ma substance. Ma substance, c'est le donné. J'existe. Je ne suis pas bon dans mon existence. Mais mon existence est nécessaire à ma bonté. Il n'y a pas de bonté sans l'existence. Donc c'est une condition sine qua non à ma bonté. Mais ce n'est pas formellement ma bonté. Ma bonté est autre chose que mon existence. J'existe premièrement grâce à ma substance. C'est la substance qui est cause selon la forme de ce que je suis. Donc ma substance me permet de dire que j'existe formellement par ma substance. Je ne suis pas bon formellement par mes qualités. Mes qualités me permettent de dire que je suis parfait. Mes vertus me permettent de dire que je suis parfait. Tous les habitus que j'ai acquis, donc tous les excès, les habitus que j'ai acquis me rendent parfait, mais ne me rendent pas encore bon. Je ne suis bon que lorsque je me dépasse moi-même pour atteindre ma fin. À ce moment-là, je suis formellement bon. Mais je ne suis pas bon substantiellement. Si je suis formellement bon, je peux donc jouer le rôle de fin par rapport à un autre être. Vous voyez, cette chose très curieuse et très intéressante à voir. Parce que ceci fonde l'éthique. Une créature peut être bonne dans la mesure où elle atteint sa fin. Si elle est bonne, elle joue le rôle de cause finale. C'est toujours par la bonté que je peux jouer ce rôle de cause finale. Donc l'homme, dans la mesure où il atteint sa fin, devient bon et peut jouer le rôle de cause finale. Mais alors voyez tout de suite la question qui se pose. Je suis bon, la ratio boni, dans la création, ainsi donc les qualités et les opérations qui me permettent d'atteindre ma fin. Voilà les trois structures de la ratio boni. La raison de bonté en moi implique ces trois. Donc c'est la raison du bon en tant qu'il est participé. Laisser partir, la bonté participe. La bonté participe implique ces trois éléments. C'est pas au sens strict la ratio boni. Saint Thomas dit la ratio boni en théologien, mais je ne peux pas le dire au point de vue philosophique. Au point de vue philosophique, je dois dire que c'est la bonté participée implique ses qualités opération. Toujours. La bonté en moi, qui est une bonté participée, implique ces trois aspects. Alors, vous voyez bien, au point de vue proprement philosophique, au point de vue structure philosophique, seul des signes substantiels, les qualités sont accidentelles, et l'opération est elle-même accidentelle. Donc, ma bonté est accidentelle. J'essaie de comprendre, hein. Ma bonté est accidentelle. Donc, quand vous dites qu'une personne est un bien substantiel par rapport à une autre personne, et nous le disons dans l'ordre de l'amitié, Puisque nous disons que la personne humaine peut être fin d'une autre personne. L'ami. Finalise l'ami. Bon. Il finalise l'ami en tant qu'il est une personne. Mais en tant qu'il est une personne, si je regarde l'aspect substantiel, il n'est pas formellement bon. Il n'est formellement bon que s'il est lui-même finalisé. Or, il est finalisé ou par Dieu ou par un ami. Et être finalisé par Dieu et par un ami est une chose accidentelle. C'est accidentel, puisque c'est par une opération. Ce n'est pas la substance. Alors, vous ne pouvez donc pas dire qu'au niveau de la créature, dans un jugement de sagesse, hein, vous ne pouvez donc pas dire au niveau de la créature qu'il y a une bonté substantielle. Donc, il n'y a pas de fin absolue. Donc, la personne humaine n'est pas un bien absolu. Alors, toute l'éthique craque. C'est évident, parce que là, vous pouvez dire que la personne humaine n'est pas un bien absolu. Si elle n'est pas un bien absolu, l'amitié ne finalise donc pas au sens absolu. Et vous êtes bien obligé de reconnaître qu'il n'y a qu'une seule finalité, Dieu. Et s'il n'y a qu'une seule finalité, Dieu, l'éthique ne peut être qu'une éthique religieuse. Et il n'y a donc pas d'éthique au sens propre humain. Mais il faut soulever l'objection, hein, il faut la saisir, parce qu'elle est très très forte au niveau sagesse. Et elle est importante pour nous, puisque de fait, nous avons dit juste l'inverse. Dans une recherche, nous avons dit juste l'inverse. Alors, y a-t-il un jugement de sagesse qui vient supprimer tout le point de vue de l'éthique au niveau humain et dire qu'il n'y a qu'une seule éthique religieuse? Je voudrais que ce soit vous qui le trouviez. Parce que si je vous le dis trop vite la réponse, hein, vous le recevez d'une façon extrinsèque. Et alors, ce n'est pas vous. Il faut y réfléchir à ça. C'est très important, parce que c'est tout le statut de l'éthique qui est en question par rapport à la métaphysique et par rapport à un jugement de sagesse. Alors, comment s'en tirer? Nous avons dit, j'essaie de donner la solution, puis je vous laisserai réfléchir dessus, parce qu'on reprendra ça la fois prochaine, parce que c'est important d'essayer de réfléchir. Je viens de dire que la personne humaine, c'est ça qui m'intéresse, parce que savoir si la vache est bonne, elle est bonne pour donner du lait. Mais ça, c'est relatif, hein. Elle n'est pas ma finalité. Donc, c'est pas. Est-ce que l'agneau est bon? Il est bon pour donner des beefsteaks. Alors, c'est excellent, vous aurez que l'agneau soit comme ça. Alors, bon, mais il n'est pas bon en soi. La personne humaine est-elle bonne en soi? Je vous ai dit, il s'agit d'une bonté participée. Cette bonté participée implique SC, qualité, opération. Quand je dis que c'est accidentel, attention, c'est là l'erreur. Ça, c'est l'analyse philosophique et métaphysique. Quand je me place du côté de la bonté participée, je sais, et saint Thomas le dit avec beaucoup de précision, que la bonté passe avant l'être du côté de la causalité, et que la bonté est relative à l'être du côté de l'intelligence. Ça, c'est une petite distinction extrêmement importante qu'il faut saisir, hein, parce que autrement, je suis devant une impasse et la seule solution, elle est là. Alors, j'explique, hein, je vous explique un peu. C'est toujours cette fameuse question-là. Il faut la lire attentivement. Prima pars question 5. Comme ça, comme un trait qui dit du bien. Qui communie ? Qu'est-ce que c'est que le bien ? Il le traite en théologie. Faisons attention, ce n'est pas en philosophie. Il le traite en théologie. Donc vous n'avez pas le droit de transposer ce que saint Thomas dit ici, dans la question 5, prima pars, vous n'avez pas le droit de le transposer directement. Mais il faut le lire. C'est une merveilleuse question de théologie. Très intelligente. On voit bien l'affrontement de Thomas d'Aquin et d'Aristote. Parce que saint Thomas l'a dit très textuellement, qui n'est pas toujours d'accord avec Aristote. C'est très rare qu'il le dise. Mais il le dit à propos du bien. De sorte que c'est beaucoup plus à l'égard du bien qu'il y a dans saint Thomas une précision nouvelle par rapport à Aristote. Beaucoup plus que par rapport à l'Essai. Mais c'est là où tous ceux qui suivent Gilson se trompent un peu. Ce n'est pas par rapport à l'essai qu'il y a vraiment une nouvelle conception de l'essai chez saint Thomas. Mais c'est beaucoup plus par rapport au bien. Alors, revenons à cette fameuse distinction que saint Thomas fait quand il compare la ratio eutis et la ratio boni. Et saint Thomas se demande, qu'est-ce qui est premier ? Il y a une distinction. Quel est l'ordre que nous pouvons établir entre la ratio eutis, la raison d'être, et la raison de bien? Quel est l'ordre que nous pouvons établir entre les deux? Saint Thomas dit, au niveau de l'intelligibilité, donc au niveau de l'analyse philosophique, qui est au niveau de l'intelligibilité, au niveau de l'intelligibilité, la ratio eutis est première. Tout est intelligible en fonction de l'être, puisque l'être, c'est ce que nous comprenons en premier lieu, et que toute l'analyse philosophique se fait toujours en fonction de l'être. Si je me place donc du côté de l'intelligibilité, l'être est premier. Si je me place du côté de la causalité, le bien est premier. Ça, c'est capital à comprendre. Il faut arriver à le saisir. Il faut arriver à le comprendre. Si je me place du côté de la causalité, le bien est premier. Pourquoi ? Parce que dans l'ordre de la causalité, c'est toujours la causalité primaire qui est cause des causes. Donc c'est la fin qui prime dans la causalité. Si c'est la fin qui prime dans la causalité, c'est donc le bien qui est avant l'être. Donc, dans l'ordre de la causalité, le bien est avant l'être. Parce que l'être, c'est la cause formelle. Substance. Tandis que le bien, c'est la cause finale. Or, la cause finale, c'est la cause des causes, donc elle est première. Dans l'ordre de la causalité. Dans l'ordre de la causalité, la fin est première, donc le bien est premier. Vous voyez que c'est curieux, ça. Ça nous fait comprendre les rapports entre l'éthique et la métaphysique. Ça nous fait comprendre que on ne peut pas dire que la métaphysique est première d'une manière absolue. Elle est première dans l'ordre de l'intelligibilité. Mais l'éthique est première dans l'ordre pratique, dans l'ordre de la causalité. C'est pour ça que si je fais une métaphysique sans faire d'éthique, au bout d'un certain temps, je tomberai dans une ontologie qui ne verra plus la finalité. Et alors, ce sera le primat de l'intelligibilité et la tentation de tout ramener à la logique. En logique, il n'y a pas de finalité. Alors, ceux qui n'ont pas de finalité, qu'ils aillent du côté de la logique. La logique, c'est la cause formelle. Hein. tout le temps, c'est l'être de raison. Alors c'est le primat de l'intelligibilité en logique. C'est pour ça qu'on dira facilement, je me souviens très bien, des logiciens mathématiciens diront, il n'y a qu'en logique où on a une objectivité absolue. C'est très propre, il n'y a pas de finalité. Propreté merveilleuse, la logique. C'est d'une limpidité, la logique. C'est merveilleux, vous n'êtes pas engagé. Donc c'est d'une objectivité absolue. L'être de raison. Il n'y a rien de plus objectif que l'être de raison. Et il n'y a rien de plus limpide. J'allais dire, il n'y a rien de plus creux aussi. Hein. Parce que c'est vrai, l'être de raison, c'est pas plein. Il n'y a pas de finalité. Mais c'est une objectivité parfaite, objectivité absolue. Alors, dans l'ordre, vous voyez, c'est, la rationalité, ce n'est pas l'être de raison, en faisant attention. Mais je pousse exprès le raisonnement pour que vous compreniez. Quand je pousse jusqu'au bout, le primat de l'intelligibilité, je tomberai dans le primat de la relation. Ce que nous voyons au point de vue métaphysique. La relation passe avant la substance quand je pousse jusqu'au bout le primat de l'intelligibilité. Le primat de l'intelligibilité conduit à mettre en premier lieu la relation, l'être de raison. Alors, du côté de l'intelligibilité, du côté de l'analyse scientifique, la philosophie première est première. Au point de vue de l'analyse philosophique, on ne peut pas aller plus loin que la philosophie première. Mais du côté de la finalité, du côté de la causalité finale, donc du côté de la causalité, donc dans l'ordre pratique, qu'est-ce qui est premier ? C'est le bien, c'est la fin. Et la fin seule est ultime, et donc première. Et donc, au point de vue pratique, au point de vue de mon engagement humain, c'est l'éthique qui passe avant la métaphysique. Ce qui montre bien qu'il y a constamment entre éthique et métaphysique un enchevêtrement. Bon, je crois que ça, vous pouvez le comprendre. La finalité, elle est saisie à partir de l'amour. Alors vous avez là, et c'est peut-être ça qui serait très intéressant à développer, vous avez là les deux ordres d'intentionnalité. L'intentionnalité de l'intelligibilité et l'intentionnalité de l'amour. Je crois que ce serait ça qui nous ferait faire la critique de Husserl. L'intentionnalité de l'intelligibilité est commandée par la cause formelle. L'intentionnalité de l'amour est commandée par la fin. Et donc j'ai toujours deux ordres d'intentionnalité différents qui ne peuvent pas se ramener l'un à l'autre parce que l'ordre est différent de l'un et l'autre. Et c'est ce que Husserl n'a pas assez précisé et c'est pour ça qu'il a pris une intentionnalité réciproque. Il n'a pas compris que l'intentionnalité intelligible pouvait être et devait être dans un sens unique. Elle dépend de l'être. Tandis que l'intentionnalité de l'amour, c'est l'inverse, c'est le primat du sujet. Quand j'aime, c'est le sujet qui est premier. Dans l'intentionnalité de l'intelligibilité, c'est l'objet qui est premier. Vous voyez, donc, vous avez ici primauté de la ratio elitis, primauté de l'objet, et ici primauté du sujet. Alors, si vous ne distinguez pas les deux, vous avez nécessairement à l'intérieur de l'intentionnalité, quelque chose de double, une réciprocité. Primauté de l'objet, primauté de l'intelligence. Oui. Et ceci dépend de ce que nous dit saint Thomas, rationalis rationi. C'est pour ça que c'est très important, cette petite distinction que donne saint Thomas. Il faut y revenir souvent. Ça met du temps, hein, avant d'arriver vraiment à saisir comment la rationalis est première dans l'ordre de l'intelligibilité et comment la ratio boni est première dans l'ordre de la causalité. Ceci, c'est une réflexion critique. Comprenez bien, c'est une réflexion critique. Au terme de toute ma métaphysique et de mon éthique, c'est une réflexion critique après l'analyse de la métaphysique et l'analyse de l'éthique, je distingue les deux, ratio entis, ratio boni. Primauté de la ratio entis du côté de l'intelligibilité, primauté de la ratio boni du côté de la causalité. C'est assez raide, hein, mais c'est très beau. C'est une clé, ça. Parce que vous comprenez tout de suite comment il peut y avoir un Aristote et un Platon. Pour Platon, le bien est avant l'être. Pour Aristote, l'être est avant le bien. L'être est avant le bien du côté scientifique. Le bien est avant l'être du côté pratique, de ma vie humaine. Alors, les deux ont raison. Il suffit tout simplement de comprendre où est la primauté du bien, où est la primauté de l'être. Ça, c'est génial d'avoir découvert ça. Et ça, c'est génial, parce qu'avoir découvert ça, ça permet de comprendre un dépassement, d'une certaine manière, entre l'opposition qu'on fait constamment entre Aristote et Platon. On comprend qu'il n'y a pas d'opposition si on respecte la primauté de l'intelligibilité et la primauté de la causalité. Alors, une fois que vous avez compris ça, j'espère que vous l'avez compris, hein, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez maintenant préciser ici et saisir la solution. Quand je dis que dans la personne humaine est bonne, d'un bien participé, d'une bonté participée, et que cette bonté participée implique essai, qualité, opération. Ça aussi, je peux le saisir assez facilement. Hein. Un être est bon grâce à son existence substantielle, grâce à ses qualités, et puis par son opération par laquelle il atteint la fin. Je suis au niveau de la bonté participée. Je suis donc au niveau de la bonté. Comprenons que la bonté ne peut être saisie parfaitement que dans l'ordre de la causalité, donc au-delà de l'analyse que je fais. C'est-à-dire que, à la place de dire que l'opération est accidentelle, dire que l'opération qui atteint une fin, elle est substantielle. Elle est accidentelle du côté de l'intelligibilité, elle est substantielle du côté pratique. C'est pas contradictoire, c'est deux points de vue différents. Or, comme je suis du côté de la bonté, je dois donc dire que l'opération qui atteint la fin est une opération substantielle. Elle présuppose la substance, elle présuppose des qualités, et elle montre comment l'être humain, par son esprit, est capable de se dépasser. Et comme il est capable de se dépasser, il est capable justement d'atteindre un bien qui lui permet d'être pleinement lui-même. Et donc c'est une opération substantielle qui permet à la personne humaine d'être vraiment un bien substantiel pour une autre personne. Et donc, de considérer que la personne humaine, dans la mesure même où elle est finalisée, est un bien absolu. Vous voyez, c'est tout simplement le fait de respecter la perspective dans laquelle je me place. Est-ce que vous vous placez dans une perspective d'analyse métaphysique, de philosophie première, ou dans une perspective éthique, c'est-à-dire pratique? Dans une perspective d'analyse philosophique, je dois dire que la qualité de l'opération, c'est accidentel. Dans une perspective pratique, je n'ai pas le droit de dire que l'opération qui me permet de rejoindre la fin est quelque chose d'accidentel, puisque c'est substantiel pour moi. Atteindre ma fin, ben, c'est substantiel pour moi, au point de vue pratique. C'est ça qui me donne ma raison même de vivre. Donc ce n'est pas accidentel. C'est ça qui me permet d'être pleinement moi-même. Vous voyez, c'est très très important de saisir cette distinction. Parce qu'autrement, je crois que c'est ça la cérébralisation. Hein. C'est de tout ramener à l'ordre de l'intelligibilité, et donc au bout d'un certain temps, à l'ordre logique. Et d'oublier l'enracinement du bien. Parce que c'est cet enracinement du bien qui me permet de comprendre comment la personne...
Théologie naturelle, Saint-Joseph, par le Père Philippe, le 16 janvier 85.
Je reviens encore quelques instants sur la question du jugement de sagesse par rapport à la bonté souveraine de Dieu. L'homme, dans cette lumière, apparaît comme ne possédant qu'une bonté participée. Sur le livre du De Hebdomadibus, le commentaire de saint Thomas, du De Hebdomadibus, où saint Thomas montre comment la participation regarde particulièrement la bonté. Et c'est une chose intéressante à voir, cela. Et c'est directement la question que nous nous posons ici, au point de vue du jugement de sagesse. Il y a laisser participer, et il y a le bien ou la bonté participer.